Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg. Alors en ce dimanche, nous allons interroger le doyen Philippe Capel-Dumont sur la dualité de la Vierge Marie. Ce qui nous a inspiré cette question, cher Philippe, c'est la prière que vous avez citée dans votre livre « Lettres à Dieu, les plus belles prières chrétiennes » et qui, en page 231, s'intitule tout simplement « Marie ». À celle qui est infiniment jeune, parce qu'elle est ainsi infiniment mère, à celle qui est infiniment droite, parce qu'aussi elle est infiniment penchée, et tout le poème, parce que c'est un poème autant qu'une prière, est ainsi, à celle qui est la plus près de Dieu, c'est la fin, parce qu'elle est la plus près des hommes. Alors cette dualité.
En réalité, c'est une dualité, mais une articulation aussi surtout. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus près de Dieu qu'on est près des hommes, et d'autant plus près des hommes qu'on est près de Dieu. C'est une des choses qui pourrait d'ailleurs nous choquer, nous dérouter, or pas du tout si l'on comprend bien que Dieu s'est fait homme. Et que dans le christianisme, il n'y a pas d'autre représentation de visage de Dieu qu'un visage d'un Dieu fait homme. C'est une des choses d'ailleurs les plus étonnantes, c'est que celui qui est le plus transcendant, le plus lointain, le plus autre, se soit fait le plus autre. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Le tout autre s'est fait tout nôtre. Et d'une certaine manière, Marie est celle qui habite en quelque sorte cette tension, cette articulation, un Dieu proche et un Dieu lointain, parce que Dieu ne peut pas être plus grand qu'en se faisant petit. Et donc, c'est cette dualité dont vous parlez. Il n'y a rien de plus grand que de se faire petit.
Alors, il y a aussi cette dualité en ce sens que c'est une mère, c'est une femme qui a donc enfanté et qui pourtant est restée vierge. Ça aussi, c'est quelque chose de... grande dualité.
Ça fait partie de l'attestation des Écritures bibliques, quand effectivement, de ce point de vue, protestants, catholiques, orthodoxes sont d'accord pour parler de la Vierge Marie bienheureuse. Il y a effectivement des différences qui naissent sur la Vierge Marie après la naissance de Jésus. Souvent dans la tradition protestante, Calvin, Luther ont contesté l'idée selon laquelle Marie est restée vierge dans la mesure où Jésus avait des frères, etc. Il y a eu toute une littérature et même une rhétorique à ce sujet. On l'a aujourd'hui un peu mieux compris les choses dans la mesure où le vocabulaire du cousin n'existant pas, tout le monde est frère, etc. Mais indépendamment de ces polémiques historiques, on voit bien quand même que malgré tout, même dans la tradition protestante, on a toujours gardé une forme de vénération pour Marie, d'une certaine manière. Ce qui a toujours choqué le monde protestant face au monde catholique, c'est ce que le monde protestant estimait, à tort ou à raison, ici nous n'avons pas à juger, à savoir que dans la tradition catholique, il y avait une tendance à diviniser Marie. Or, je ne crois pas que le catholique croit jamais que Marie soit une divinité. En tout cas, ça ne fait pas partie du dogme catholique, absolument pas. Mais le protestant, il y avait une sorte de tentation, de penchant, de faire de Marie une sorte de quatrième dieu ou de quatrième personnage de la Trinité, si vous voulez. D'ailleurs, c'est une belle hérésie condamnée, d'ailleurs, par le catholicisme. Mais ce qui est frappant dans la figure de Marie, c'est que ce qui fascine véritablement tout le monde, d'ailleurs pas seulement les chrétiens, vous savez, dans le Coran, on parle aussi de Myriam, de Marie, qui est aussi de la Vierge Marie. Ce qui est assez fascinant, en tout cas, dans la grande tradition chrétienne, toute confession confondue, c'est le fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire que Marie est à la fois celle qui est la plus proche de nous en tant que mère, tout ce que ça implique, de relations affectives, et en même temps un personnage hors du commun. Si vous voulez. Et donc, ce que vous appelez cette dualité crée la fascination pour cette personne unique.
Alors, il y a aussi dans cette prière, à celle qui est infiniment joyeuse, parce qu'aussi, elle est infiniment douloureuse.
Oui, parce que c'est une joie qui est une joie lucide. Ce n'est pas un plaisir éphémère, ce n'est pas une sorte d'ivresse momentanée, mais c'est une joie qui prend naissance sur la douleur. On peut considérer que d'ailleurs c'est certainement une image de Dieu. Dieu est certainement joyeux, mais cette joie, elle ne fait jamais l'impasse sur les douleurs. Comment voulez-vous d'ailleurs qu'un père et une mère normalement constitués puissent être joyeux indépendamment de la souffrance de ses enfants? Mais néanmoins, il y a une possibilité de la joie dans la mesure où la joie naît dans la sortie continuellement de la souffrance. Et Marie, c'est celle qui voit bien aussi la sortie de la souffrance. C'est une femme qui, sans doute, a dû souffrir comme jamais de voir son fils crucifié. Enfin, il n'y a pas pire pour une mère que de voir
ça. Que de voir ses enfants souffrir.
Et donc, on peut imaginer ce que cela a pu représenter, de voir son enfant mort, n'est-ce pas ? Et surtout, condamné pour une chose dont on sait qu'elle est injuste. Marie le savait certainement mieux que quiconque, que la cause était une cause injuste, voire perverse. Alors, précisément, il y a là, donc, du même coup, la joie qui va naître de la résurrection, c'est aussi une joie, mais qui ne s'affranchit pas de la souffrance qui vient de la capacité humaine aussi à faire le mal, enfin, à engendrer le mal.
Et puis, cette résurrection, le Christ n'est pas resté parmi nous, donc, en fait, elle a perdu la proximité physique avec
son
fils.
Oui, il y a eu aussi ça, c'est-à-dire que d'ailleurs, Jésus a des paroles qui peuvent paraître très dures, lorsqu'on lui dit dans une réunion, « Heureuse la femme qui t'a engendré, toi, j'ai... » etc. Et lui, il répond, « Non, bien plus heureux encore sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Espèce de distance, si vous voulez, assez impressionnante, qui montre que
Jésus, Dieu que Christ.
Jésus de Nazareth dit au fond, oui, mais très bien, mais ne considérez pas que ma mère, elle a du mérite comme ça. C'est parce qu'elle-même a fait la volonté de Dieu qu'elle est ce qu'elle est. Vous voyez, c'est ça qu'il veut dire, n'est-ce pas? Et donc, il y a une forme de noblesse incroyable dans la relation entre cette mère et son fils.
Alors, je dirais à celle qui est la plus près de Dieu parce qu'elle est la plus près des hommes, c'est vrai que nous pouvons adresser plus facilement nos prières parce qu'on a l'impression qu'elle est presque, j'allais dire, entre nous, lui et nous.
Oui, on peut le dire.
Elle intercède pour nous.
Oui, c'est une figure très impressionnante. Le fait que ce soit une femme aussi dit quelque chose du mystère de la relation homme-femme, de l'humanité, dans la mesure où cette femme est très proche, enfin comme une mère, il n'y a pas plus proche qu'une mère, et en même temps ouvre à un infini. Comme si, au fond, la proximité, la tendresse, était aussi la voie de l'ouverture à l'infini. C'est une belle leçon pour chacun.
Merci, cher Philippe. Merci, cher doyen Capelle-Dumont, pour cette chronique sur la dualité de la Vierge en ce dimanche.